ensemble.
Ici,
Radio Livre.
Radio Livre,
la radio des initiatives.
Bonjour et bienvenue, ici Radio Buvette en direct du marché des producteurs des piles avec Aymeric à la technique et Maud de micro. Alors aujourd'hui on accueille Mathieu Morard qui est chargé de mission éducation au territoire au parc naturel régional des Baronnies Provençales.
Bonjour Radio Live.
Bonjour Mathieu. Alors est-ce que d'abord tu peux commencer par nous dire ce que c'est que le parc naturel régional des Baronnies ?
Le parc naturel régional, c'est un outil de développement du territoire et de mise en valeur, en même temps que d'aider à protéger un peu les baronnies provençales. L'idée, c'est d'arriver à ce que les forces vives du territoire, les associations, les entreprises, les agriculteurs, etc., puissent trouver des moyens de mutualisation, de mettre leurs forces en commun et de participer à un outil de développement du territoire. Faire en sorte, en gros, que le territoire des baronnies vive et vive le mieux possible.
D'accord. Et il y a beaucoup de parcs naturels régionaux en France ?
Il y en a 51 désormais. Les baronnies provençales sont le dernier qui a été classé en janvier 2015.
D'accord. Et les missions du parc, précisément, si elles sont déclinées, protection de la nature ?
Alors, il y a un volet environnement, mais il est à part égale avec les autres, à savoir l'agriculture, le tourisme, l'économie, l'éducation au territoire, mais aussi des problématiques comme la transition énergétique, la gestion des forêts, la signalétique, les paysages, les patrimoines historiques, culturels, etc.
Un vaste travail.
Il y a de quoi faire, ouais.
D'accord. Et du coup, toi, tu travailles à l'éducation au territoire. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est pour toi ?
Éducation au territoire, c'est faire comprendre, faire découvrir un peu les richesses des baronnies qui, pour beaucoup, sont assez méconnues. Pourquoi territoire ? Parce que c'est aussi bien l'histoire que la géographie, géologie, que l'agriculture locale, que l'environnement, faune et flore, que les paysages, c'est un peu toutes les facettes du territoire qu'on va essayer de faire connaître et de diffuser dans les écoles, les centres de loisirs, le grand public et centres de vacances.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce territoire, au niveau de la faune, de la flore, par exemple ?
C'est un territoire qui est unique. On a la chance d'avoir trois climats différents ici qui cohabitent. Climat alpin d'un côté, méditerranéen et climat continental également. Et cette superposition de climats et le fait qu'on ait des altitudes très variées, ça va de 200 mètres à 1600 mètres, à 1007, ça fait qu'on a une très grande diversité et géographique et biologique, avec plein d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de libellules, de plantes qu'on peut trouver par ici. Et je crois que M. Romain nous en parlera mieux que nous, il vient d'arriver.
Salut. Ouais.
Alors Romain vient de nous rejoindre, Romain qui est guide de moyenne montagne ou basse montagne.
Oui.
Bonjour marche. Romain.
Salut, désolé d'être en retard, j'étais en randonnée en fait, du coup j'ai fait plus vite que je pouvais. Et vous avez commencé, donc voilà, j'arrive.
Pas de soucis. Donc du coup, toi, t'es aussi originaire des Baronnies.
Ouais, tout à fait.
Et c'est un territoire que tu connais aussi plutôt bien.
Eh ben ouais, tout à fait. C'est un territoire que je côtoie depuis mon enfance. Et c'est un territoire qui m'est très cher et que j'aime beaucoup. Et donc j'avais envie de venir un peu en parler avec vous sur Radio Olive.
Super. Alors, juste pour une petite précision, c'est aujourd'hui, c'est une rencontre entre Mathieu et Romain. Ni l'un ni l'autre ne se connaissent. Du coup, on parlait de ce territoire des Baronnies Provençales et de ses spécificités, des trois climats qui cohabitent ici et qui créent un peu son originalité. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à...
Le truc, c'est qu'en arrivant en cours de route, là, je suis comme un peu... Je sais pas par quoi vous avez commencé et tout.
Non, on parlait un peu géographie, ouais, le fait qu'on est sur un territoire qui est très varié,
ouais, tout
qui est à l'interface entre Alpes, Méditerranée et continent. Et puis on s'en était pour l'instant limité là. Après, dans le détail, on a des espèces qui vont être, notamment au niveau animal et végétal, on a des espèces qui vont être en limite de répartition. C'est-à-dire qu'on a on est au nord des espèces méditerranéennes. On va avoir, que ce soit au niveau domestique avec les derniers oliviers, les plus au nord de la planète, mais aussi avec des espèces végétales. Je pense au chou des montagnes qu'il y avait à Buis, là, qui est en limite nord de répartition aussi. Et inversement, avec des espèces alpines qui vont être plutôt en limite ouest de répartition. Donc on est sur des zones un peu frontières, avec une faune et une flore qui sont assez rares et assez bien protégées dans l'ensemble, en tout cas pour ce qui est des espèces fragiles. Et ça, c'est une des particularités. Après, on pourrait parler des aspects humains, historiques, géologiques, c'est encore autre chose.
Super. Et toi, Romain, tu travailles surtout sur le massif des baronnies, à la différence du parc naturel régional. Et au niveau des délimitations, des frontières, est-ce que c'est similaire? Est-ce qu'il y a des petites différences?
Entre le parc et le massif des baronnies, il y a des différences, mais c'est surtout des différences culturelles. Je ne sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais en tout cas, si on prend le PNR tel que sont ses délimitations, ça englobe aussi le Diwa, le Pays de Diolfi, le Rosané, qui sont les mêmes fondements géologiques et géomorphologiques que le massif des Baronnies, qui du coup sont... une grande instance, mais qui sont pas forcément ouvertes au niveau géographique sur les mêmes vallées. Donc du coup, il y a une complexité en fait de circulation en fait entre ces différents lieux, qui fait qu'il y a parfois une fermeture entre ces lieux-là, mais qui sont dans le même ensemble en fait, et qui sont délimités au sud par l'ensemble du massif du Mont Ventoux et de la montagne de Lure et des dentelles de Montmirail, et au nord par le massif du Vercors et par la vallée de la Durance à l'est, et évidemment la Nyons un peu comme la porte d'entrée du massif avec la vallée du Rhône à l'ouest.
On est sur un territoire qui est éclaté au niveau socio-économique. Les gens, ils vont aller plutôt sur Vaison, Avignon. Dès qu'on fait 30 km vers l'est, ils vont plutôt aller sur Gap, sur Vennes. Et pareil pour l'agriculture. C'est une agriculture qui est très diversifiée entre les grands champs de pommiers de la vallée du Buëch et les petites terrasses d'abricotiers qu'on a par ici, côté du Nyoncé et de Buis. Ça n'a rien à voir. Par contre, l'unité, en tout cas telle que le parc l'a proposé dans un premier temps, c'est une unité qui est historique, parce que les baronnies médiévales, celles des Mévouillon, Montauban, Mison-Lachaud, étaient sur ces limites-là. Et c'est une unité qui est géologique aussi, parce que c'est un ensemble qui fait partie, à la différence du Diwa qui est au-dessus, ça fait partie c'est des mêmes plissements, on n'a que des vallées qui sont est-ouest. Que la vallée de l'Oule qui fait un peu exception, mais on est vraiment sur des vallées est-ouest tout au long des baronnies. Donc c'est un ensemble, il y a une unité géologique et une unité historique. Après, pour ce qui est des habitudes des gens, pour ce qui est des voies de circulation, n'en parlons pas, entre les cols et les gorges, on est sur des territoires qui sont assez ardus à fréquenter. Mais ça, c'est plus difficile de traverser le territoire. Et puis au niveau agricole, comme je disais, c'est une mosaïque de terroirs. Il y a toute cette richesse aussi qui est présente.
Et du coup, par vos activités respectives, vous travaillez tous les deux sur deux publics assez différents. Toi, Romain, tu as plutôt travaillé avec des familles qui sont en vacances dans le coin. Et puis toi, Mathieu, tu vas plutôt travailler avec les écoles, les centres de loisirs et les habitants, en quelque sorte, du parc. Ouais. Mais de quelle façon vous travaillez avec ces publics-là? Est-ce que vous travaillez... Tu me disais, Romain, que vous travaillez différentes activités, que ça soit un petit peu diversifié, travail à l'extérieur, à l'intérieur.
Je crois que c'est complémentaire dans tous les cas. Après le parc, on n'est pas directement sur le terrain. On va travailler avec plein d'associations locales, plein de gens qui sont accompagnateurs comme les Romains. Et l'idée, voilà, c'est de développer ce côté éducation au territoire et à l'environnement, de sensibiliser un peu les gens à la richesse qu'ils ont autour d'eux, de manière à ce qu'ils la prennent en compte et qu'ils la protègent mieux aussi. Et puis de développer le territoire, faire en sorte qu'il y ait de l'activité économique toute l'année, ce qui n'est pas chose évidente toujours. De faire en sorte qu'on soit sur des villes, des villages qui ne vivent pas voilà, que du tourisme juste une période de l'année, mais qu'il y ait des écoles ouvertes, qu'il y ait de l'artisanat, qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait de la vie sociale, qu'il y ait des rencontres culturelles, des événements. Il y a tout ce côté dynamisé qui est hyper important. Pourquoi ? Parce que si on veut voir un bon concert, très souvent, on est obligé de prendre la voiture. Idem pour le cinéma, le théâtre, ou que ce soit tous les arts. Et pareil pour une maternité ou pour un hôpital, il faut faire de suite une heure de route. Donc il y a un peu tous ces enjeux derrière de développement. Mais pour revenir à la question, on s'appuie sur tout un réseau, tout un maillage d'associations et de guides locaux.
C'est vrai que ben moi je suis pas tellement sur cet aspect-là un peu de. Moi je viens d'essayer de monter mon truc cet été, donc c'est vrai que c'est un peu aussi le début, donc il faut se faire connaître, rentrer dans les réseaux et tout ça. Et c'est vrai que je fonctionne plutôt avec un public, en tout cas pour le moment, de touristes qui viennent dans la région. J'essaie de proposer à ces gens-là de découvrir un peu mieux le massif, un peu plus en profondeur, et d'aller faire de la randonnée en montagne. Et puis aborder un peu tous les aspects, que ce soit l'interprétation du milieu, que ce soit la faune, la flore, la géologie, mais justement aussi le côté humain, la mosaïque de paysages avec les cultures, l'agriculture, donc le pastoralisme, tout ce qui fait vivre un peu la région. Et donc c'est vrai que je ne suis pas encore moi tellement en relation avec ce public qu'on retrouve à l'année, donc avec les écoles et tout ça, l'éducation, l'environnement.
J'espère que ça va venir.
Ouais, voilà. J'espère que ça va venir aussi. Et voilà. C'est pas mal ça.
Ouais. Et du coup, avec vos publics, avec ces enfants, quel genre d'activité vous mettez en place en partenariat avec ces associations ?
Alors, le gros de la mission d'éducation au territoire, c'est avec les écoles. Et donc, c'est les instituts qui sont responsables des projets. Donc, on ne cherche pas à juste financer une ou deux demi-journées de balade dans l'année. On est vraiment sur des projets au long terme, de manière à ce que, aussi bien sur tous les thèmes dont on a parlé, hein, que ce soit agriculture, paysage, ou faune, ou flore, ou autre, qu'on ait des enseignants qui soient responsables du projet et qui le mènent de A à Z. Et du coup, ça permet d'avoir tout au long de l'année des réinvestissements en classe, et nous on va financer plutôt les séances en extérieur et tout ce qui est balade. Alors là on n'est pas sur la randonnée, on est plus sur des ateliers découvertes, des ateliers pédagogiques qui vont les trois quarts du temps avoir lieu dehors, parce que c'est un aspect hyper important, c'est le fait que les enfants aujourd'hui, ben, ils semblent ne plus sortir suffisamment. C'est pas le cas de tous, mais sans généraliser, mais il y a quand même des enfants qui sont de plus en plus sédentaires. Et on s'aperçoit, notamment avec les neurosciences aujourd'hui et tous les progrès qu'il y a, ben que ça risque de faire un peu des dégâts sur les organismes et les cerveaux dans quelques années, dans quelques décennies. Donc c'est aussi pour prendre les devants et faire en sorte que les enfants retrouvent le plaisir de grimper aux arbres, retrouvent le plaisir d'aller chercher des petites bêtes dans l'herbe. Et s'interroge sur les vieilles pierres du village aussi. Il y a toute cette prise en compte de l'environnement. Après, c'est un peu selon le bon vouloir et les envies, les motivations des enseignants. Et pour ça, ben, on peut leur faire confiance. Parce que cette année, il y a eu près de 35 projets différents auprès de 50 classes. Et il y a eu tous les thèmes possibles et imaginables. Hein. On parlait des barons. Il y a eu, par exemple, l'école de Cédron qui a travaillé sur l'histoire des médiévales du Cédronais. Donc, entre la tour de Riable et le fort de Mévouillon, ils ont fait des sorties découvertes, des sortes d'enquêtes sur le terrain, tout en apprenant de l'histoire. Hein. C'est ça le but.
Un peu comme un Cluedo.
Un petit peu ça, ouais. Et puis, comme ça, des projets où on a des savoirs, des acquisitions scolaires qui se traduisent vraiment sur le terrain, mais voilà, il y a pas mal d'exemples, je pourrais vous en redonner après.
Tu parlais des neurosciences et qu'est-ce qui se passe? Quel constat est fait? Qu'on est déconnecté de la nature et que ça impacte
C'est ce qui s'appelle le syndrome du manque de nature, qui nous gâte tous si on y prend garde. C'est le fait que on est passé du nomadisme au stade de sédentaire en moins de 10 000 ans. C'est quelque chose qui est très rapide et très violent pour l'espèce humaine. Et en plus de ça, on a désormais des jeunes ou même des moins jeunes qui ont tendance à beaucoup passer de temps devant les écrans, donc avoir une attitude passive, en tout cas pour ce qui est du corps. Et on s'aperçoit en comparant que les enfants de 6 ans qui ont l'habitude de monter aux arbres n'ont pas le même cerveau que des enfants qui n'ont pas cette habitude-là. Alors c'est un petit cri d'alarme, certes, mais on en est au tout début des neurosciences et de ces constats-là, donc ça va encore prendre du temps pour faire son chemin, mais ça, quelque part, ça vient aussi avec le besoin qu'ont de plus en plus de gens de revenir s'installer à la campagne, de revenir vivre dans des pays où ils estiment avoir des valeurs plus près de la nature. Et ça, on va dire que la tendance actuelle, notamment au sein de l'éducation nationale, qui recommande maintenant la mise en place de coins nature dans les écoles, la mise en place de projets décloisonnés ouverts sur l'extérieur qui permettent aux gamins de passer plus de temps sur le terrain et en pleine nature. Donc on est renforcé là-dedans, dans cette conviction-là, par toutes les réformes les réformes actuelles de l'éducation nationale. C'est un besoin, donc il faut qu'on y... C'est bien d'essayer de sensibiliser les gens à ça, qu'on soit enseignant ou qu'on soit juste simplement parent d'enfants.
Et toi, ça t'est déjà arrivé, des petites anecdotes, quand tu te retrouves avec des familles d'enfants qui n'ont pas les bases?
Carrément, ouais. Je suis pas mal justement confronté à ces familles de personnes qui très souvent viennent de la ville, notamment Paris, Bruxelles, et qui sont très enjouées quand même généralement de venir sur ces sorties, mais on sent vraiment que pour certaines personnes c'est difficile, on sent qu'elles sont profondément déconnectées, déracinées de la nature, donc je rejoins vraiment Mathieu là-dessus, où je pense qu'il y a un profond besoin de recréer des connexions, et ça c'est vraiment, voilà, ça me semble super important. Et c'est vrai que moi, par exemple, ayant eu la chance de grandir ici, quand j'étais gamin, je courais dans la montagne. À l'âge de 8 ans, je crapahutais partout, ma mère ne s'inquiétait pas, je faisais un peu comme je voulais. Aujourd'hui, pour beaucoup de parents, pour beaucoup d'enfants, c'est soit pas possible, et puis pour beaucoup de parents, c'est devenu quelque chose d'inconcevable, parce que voilà, les choses sont telles qu'elles sont actuellement. Mais ça en résulte qu'effectivement, il y a une déconnexion par rapport à ça, et que... On se rend compte que la nouvelle génération n'a pas du tout les mêmes facultés d'adaptation à son environnement, en fait. Et voilà, du coup, se débrouille beaucoup moins bien, en fait, tout simplement, pour marcher, pour crapahuter. Je fais par exemple une randonnée pied dans l'eau, où voilà, on découvre un peu le milieu au bord de la rivière, etc. Et les enfants qui n'ont jamais fait ça, ils ont de la difficulté à marcher dans l'eau, quoi, tout simplement. Et il faut vachement les aider, quoi. Donc ils ont besoin d'aide, quoi.
Après, ça n'empêche pas qu'ils seront sûrement plus pointus au niveau du maniement de la tablette.
Oui, voilà.
Ça, j'en doute pas. Ouais. Non, c'est un constat. Il faut repartir de zéro, si on peut dire. Mais c'est bien, ça garantit du travail pour les années à venir.
Oui, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, puis c'est vrai que nous, en tant qu'acteurs, justement, par rapport à ça, on crée le lien, on fait le pont, justement, entre ce milieu et puis ce public-là. Et c'est en ça aussi que ce métier, que ce soit accompagnateur ou autre, est très intéressant, de pouvoir créer des liens et être ce pont personnifié pour essayer de recréer des liens avec la Terre, en fait, quoi.
On va faire une petite pause musicale, si ça vous va.
Yeehaw.
Allez, petite pause.
Up to the passes by, they all sigh. Oh, when he moves just like a panther, he feels your gaze, but won't look at you. He won't get a smile, 'cause it's really not his style at all. She walks, it's quite contagious. Eager eyes follow her thighs and go, ooh. The way she moves strikes a chord and hits a groove, but she ignores the hopeful advances. No, she don't give no chances at all. Back at a place, finds her bed too spacious, and as she passes, her own reflection sighs, ah, Mr. Gorgeous is feeling lonely. He wishes that if he could only smile once in a while.
Ensemble, ici, Radio Live, la radio des initiatives.
Rebonjour et rebienvenue. Nous sommes de retour sur le marché des producteurs des piles en direct avec Mathieu et Romain. Et comme vous le savez, c'est un studio en plein air. Donc nous avons parfois des intervenants spontanés. Donc on a quelqu'un qui voudrait poser une question.
Oui, bonjour à tous. Donc c'est Christophe de Nyons, de l'association Solidar Nyons. Donc c'était pour poser une question au niveau de l'accessibilité du parc pour les personnes en fauteuil roulant notamment, et puis tous les handicaps en général. Donc savoir s'il y avait... Donc le parc vient juste de se mettre en place, mais c'était pour savoir s'il y avait une enveloppe budget dédiée au handicap.
Alors
J'aurais du mal à répondre à la place de la présidente ou du directeur, étant uniquement sur l'éducation, mais sur les budgets en tout cas. Juste pour donner une tendance quand même globale, c'est que les deux régions, qui sont les deux plus grosses financeuses, ont, sur l'année 2016-17, globalement quand même bien restreint les budgets de fonctionnement. Donc au niveau des projets à développer, pour l'instant on reste sur ce qu'on fait et on en a les moyens. Mais pour ce qui est du développement, ça va être plus délicat. Ça, c'était une première parenthèse pour rester juste dans les faits. Sur la question de l'accessibilité, c'est pas évident parce que déjà ça relève très souvent du domaine privé pour tout ce qui est magasin, que ce soit la fréquentation des magasins, domaine public pour tout ce qui est voie publique, donc c'est plutôt les mairies. Et après, pour ce qui pourrait être par contre de faire connaître les lieux, les secteurs, les activités adaptées à des personnes à mobilité réduite, Ça, par contre, ça coûterait peu, le fait de tout mettre sur une même brochure, de faire savoir, de faire connaître et du coup aussi d'inciter des nouveaux privés à s'y mettre. Ça pourrait être, à mon avis, un projet qui pourrait voir le jour assez rapidement sans que ça coûte énormément. Cela dit, moi je ne suis pas élu, je suis qu'agent territorial et j'ai pas de... C'est aux élus, de toute manière, je crois que le monsieur a sollicité la présidente à ce niveau-là. S'il y a une parole politique forte là-dessus, ce serait une très très bonne chose au nom de l'égalité. Après, moi je peux juste donner ma vision des choses à mon niveau, je ne peux pas aller plus loin.
Oui, tout ce qui est donc commune, oui, je sais bien que ça dépend du maire, mais si on sort des sentiers battus, donc il y a bien sûr il y a les chemins forestiers, il y a les chemins pédestres. Mais pour ça, donc en étant en fauteuil, il faut quand même soit des équipements qui coûtent très cher, donc des équipements qu'on pourrait mutualiser, que par exemple le parc pourrait acheter du style une jouellette. Donc il y a des personnes qui connaissent ce côté. Il y a des fauteuils tout terrain. Maintenant, on a du matériel. Depuis quelques années, on a du matériel qui s'est adapté, qui est relativement facile d'utilisation et qui permet de sortir un peu du goudron. On va dire du goudron et des trottoirs, quoi. Voilà.
Bah, y a eu des sorties, des randonnées parcs qui ont été, où justement il y a eu des joëlettes là qui ont été. En général, il y a des associations qui les prêtent assez facilement, sans aller jusqu'à l'acheter. Mais il y a eu des balades accompagnées où on a fait venir des joëlettes pour des. Là, c'était des enfants, donc c'est peut-être un peu plus facile aussi. Et on n'a pas des sentiers évidents. Que ce soit en joëlette, que ce soit encore moins en fauteuil. Quoi. Ça, c'est une certitude. Il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Ouais.
Merci beaucoup. Donc oui, Radio Live est aussi un lieu de dialogue et d'intervention. Donc ouais. Voilà, c'est important de le faire. On va revenir à reparler un petit peu de ce territoire et de ce qu'on y fait, de ce qui s'y fait. Et toi, Romain, du coup, t'es né ici, tu as grandi ici. Est-ce que tu vois des évolutions dans la façon dont on se déplace est-ce que tu vois des évolutions sur ce territoire?
Ouais, complètement. Ouais. Moi, ça fait... Là, ça faisait 5 ans que j'étais plus trop dans la région. Là, j'ai pas mal guidé à l'étranger. Et puis, étant revenu au début du mois de mai 2016, je suis profondément touché de voir que je trouve qu'il y a une très 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 belle dynamique dans la région, en fait, de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a un peu une espèce d'exode urbain, en fait, qui est en train de se réaliser. Et en tout cas, moi, je le ressens vraiment. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent s'installer dans la région, créer une dynamique très souvent liée à l'agriculture et aux plantes aromatiques et médicinales, vu qu'on est quand même dans une région assez atypique pour ce genre de produits. Aussi dans le secteur du tourisme, je suppose. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment, comparé à ne serait-ce que 10 ans en arrière, 10-15 ans en arrière, je trouve qu'il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses qu'avant. Ne serait-ce que, bah, justement, le marché, là, les producteurs, tout simplement, pile le lundi soir. Je trouve que c'est une belle avancée. Et puis, le parc qui est enfin passé, donc il y a maintenant un an, et les brouettes. On sent qu'il y a une réelle dynamique qui est en train de s'installer, des nouvelles personnes qui arrivent, il y a du sang neuf, c'est en train de se rajeunir, alors que c'est vrai qu'on était quand même dans une région plutôt vieillissante au niveau de la population. Donc je pense qu'il y a des très belles opportunités à créer et voilà. Donc, je pense que ça va dans le bon sens.
Super. Partage le constat.
Ouais, après le challenge, ça va être de gagner un peu toutes les communes. Parce que autant le Nyon, ses abords, Buy aussi, Laragne, on a comme ça un peu des pôles urbains qui vont un peu centraliser l'activité, les initiatives. Mais dès qu'on va dans des coins un petit peu plus perdus, dès qu'on arrive à Montauban-sur-Ouvèze ou à La Borelle ou dans les endroits type Cédron, Vallée de la Méouge et autres, c'est des endroits plus enclavés où il y a un petit peu plus de difficultés, mais c'est vrai qu'il y a une prise en main progressive des gens aussi. Il y a le fait aussi que le territoire s'est repeuplé petit à petit de plein de couches d'habitants et qu'aujourd'hui, ben, on n'arrive plus à différencier qui est-ce qui est arrivé dans les années 70, qui vient d'où, et puis à la rigueur, j'allais dire, on s'en fiche. Peu importe, quoi. Il y a du coup une vie sociale assez riche, culturellement et historiquement assez ouverte. Les baronnies, ça reste une terre d'accueil, ça reste une terre de passage depuis très très longtemps, et là, on pourrait remonter même à la préhistoire. Et ça continue à se retrouver aujourd'hui. Alors ça a fluctué, c'est sûr, mais on a globalement des villages qui ont repris pas mal d'habitants depuis une trentaine d'années. Et puis des gens qui ont envie que le territoire continue à bouger, à être actif, à ce que des familles s'installent, à ce que les écoles se maintiennent et qu'on est un peu dans ce combat-là, quoi. Et c'est un combat, il faut pas lâcher, parce qu'on a... On a vite fait de basculer sur des modèles de développement ou des modèles touristiques qui, je pense, ne sont pas ceux qu'on souhaite par ici, quoi. C'est important de garder des villages vivants toute l'année.
Tout à fait. Et c'est aussi votre travail à vous, le parc, dans votre programme éducation au territoire également. C'est de faire du lien entre tout ça et de travailler avec cette nouvelle génération.
C'est exactement ça, la nouvelle. Aussi les adultes, on s'adresse aussi au grand public pour tout ce qui est éducation au territoire. C'est parce que ça intéresse aussi les adultes de mieux connaître les rapaces nocturnes, de mieux connaître le pastoralisme local et puis aussi de le soutenir, hein, parce qu'il y en a besoin. Et c'est comme ça, il y a des zooms aussi bien sur l'agriculture, sur l'histoire, sur la faune, la flore sauvage, qui sont importants de faire et puis d'inciter les gens juste à être curieux, que ce soit avec ou sans le parc, peu importe, mais de prendre l'habitude de sortir, de regarder, d'observer, de se questionner, d'avoir cet œil ouvert sur le territoire et de vite s'apercevoir que c'est quelque chose d'unique.
Et du coup, tout à l'heure, tu disais que c'était important dans vos activités d'éducation au territoire de réinvestir les savoirs. Qu'est-ce que ça veut dire de réinvestir les savoirs en matière d'éducation ?
C'est le fait que pour apprendre, quand on est en construction, quand on est un enfant, on a besoin que l'apprenant, quoi, en tout cas que l'instit ou le parent répète. C'est pas une fois qu'on entend, c'est encore moins une fois qu'on comprend. On a besoin d'entendre plusieurs fois les choses. Et lorsque le parc va financer la venue d'un intervenant spécialiste des chauves-souris, par exemple, dans une école, les élèves, si on les re-questionne pas, si on les réinterroge pas, si on retravaille pas ce qu'on a vu à travers des éléments de français, de langage oral ou autre, et ben le savoir il va s'évaporer petit à petit. Il y a besoin de cristalliser un peu ce savoir. Et ça, c'est le travail des instituts. Ils vont se servir du complément qu'apporte le parc avec des aspects très concrets, main à la pâte, des aspects très immersion nature, si on veut, pour ensuite réinvestir des savoirs plus théoriques, plus scolaires, on va dire. Et ils vont travailler en mettant en place un jardin. Ils peuvent travailler la biologie, les mathématiques, le français, même le latin. Et on peut tout travailler à travers un thème. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appelais tout à l'heure, l'aspect décloisonné ou transversal. C'est le fait de, en mettant en place un jardin pédagogique dans l'école, d'arriver à travailler plein de matières plus scolaires. Et le fait que les enfants soient investis, accrochent sur le thème, c'est leur jardin, ils connaissent bien, du coup, les apprentissages passent beaucoup mieux. On n'est pas sur le schéma qui peut marcher aussi, mais pas toujours suffisamment de l'instit au tableau, uniquement en classe. De toute manière, maintenant, les instits d'eux-mêmes vont énormément sur l'extérieur, ont compris l'intérêt qu'il y avait. Et après, cette pédagogie, cette pédagogie de projet, le fait voilà, d'investir les enfants sur un projet qui devient petit à petit, peut devenir en tout cas, le fil conducteur de l'année et des apprentissages, ça marche du feu de Dieu.
Et puis c'est aussi remettre la nature, le territoire au cœur de l'apprentissage.
Oui. C'est un prétexte. Ce qui va compter avant tout, c'est l'apprentissage. C'est le fait que le gamin, il apprenne à devenir curieux, il apprenne à devenir un petit citoyen, qu'il apprenne à où est-ce qu'il se situe dans le temps, dans l'espace, où est-ce qu'il est. Voilà, juste pour qu'il ait plus d'outils pour se construire, pour mieux grandir, et puis aussi pour se sentir concerné parce que vont devenir les baronnies. Quoi. Dans 20 ans, c'est eux qui sont aux manettes, donc c'est bien qu'ils aient quelques billes et qu'ils aient des éléments de réflexion par rapport à ça.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Romain. On va arrêter cette émission ici pour aujourd'hui. Merci à vous d'être venus, c'était... bonne émission. Au revoir, à bientôt.
Merci.
Et merci.
Ensemble, ici, Radio Livre, la radio des initiatives.